Rencontre.
Le 10 septembre 2021, Arto organisait une rencontre dans le cadre du festival Les Sorties de Rue de Ramonville. En partenariat avec Arsena, l'usine et Occitanie en Seine, la table ronde s'est articulée autour d'une réflexion sur les lieux et temps de partage, d'expression et de fête à mettre en place dans un contexte sécuritaire et sanitaire contraignant. Chantal Decmin, Pierre Pilate, Elisabeth Sanson et Anaïs Vaillant sont les invités de cette discussion animée par Anne-Lise Vinciguerra.
On va attaquer le timing de cette matinée est assez serré, donc on va essayer de le tenir à peu près. Merci beaucoup d'être ici, d'être parmi nous. Cette rencontre est organisée dans le cadre des sorties de rue de Ramonville et du parcours pro mis en place avec l'usine dans le cadre d'Exit. Donc merci à l'usine pour cette co-organisation, ce partenariat. Merci à Occitanie en Seine et Arsena qui sont également partenaires. Merci beaucoup à nos intervenants et à Anne-Lise qui va essayer de les orienter, les cadrer. Merci beaucoup à Aurore, Élise et Mathilde qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser tout ça, toute cette matinée. Après cette discussion qui durera à peu près jusqu'à 11h30, laissez-vous guider, on ira tranquillement vers d'autres horizons jusqu'au catering où nous pourrons manger ensemble. Et à 14h30, il y a le spectacle de la compagnie L'Étoile Cirée. Je m'en arrête là et on se retrouve plus tard et puis dans le week-end après sur Exit et les sorties de rue. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux à cette rencontre. À tout à l'heure.
Donc, enchantée de vous recevoir tous et toutes ici sous le chapiteau de Arto. Donc, comme le disait Pierre, et merci à lui pour son accueil et pour la proposition, cette rencontre a été préparée par Élise Girard, Mathilde Corbière, Pierre Boisson lui-même et Aurore Carpentier, donc, qui ont eu la gentillesse de me faire l'honneur de me proposer d'animer cette rencontre aujourd'hui. La thématique de départ était quel lieu et temps de partage, d'expression et de fête institué dans un contexte sécuritaire et sanitaire contraignant. Alors le contexte sécuritaire et sanitaire contraignant, je pense qu'on le connaît tous et toutes. On le définira quand même un tout petit peu tout à l'heure, mais on va surtout essayer avec cette rencontre de sortir d'une forme de déploration permanente dans laquelle on peut être beaucoup en ce moment parce que c'est un réflexe assez naturel aussi. Mais on va essayer au contraire d'élaborer un certain nombre d'idées, de solutions, et pour cela on vous mettra également à contribution. Donc comment ça va se passer? On va avoir à peu près 45 minutes où nos intervenants et intervenantes vont, à partir de mes questions, vous présenter différents points de vue sur le sujet donc, de la fête, de l'expression et du partage, notamment dans les arts de la rue, mais pas seulement. Et ensuite, dans un second temps, moi, je leur reposerai peut-être un tour de questions et ils et elles pourront réagir sur ce qui aura été dit par les uns et les autres. Et ensuite, on vous donnera la parole. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, pendant les interventions, des idées qui vous viennent, des questions, à les noter ou à les garder en tête, puisque j'ai l'impression de faire un numéro de clown. Le truc du micro. Merci, j'ai un expert. Merci. Voilà, donc à peu près comment ça va se passer. Vous aurez donc tout à fait la possibilité de poser des questions, d'intervenir, de donner vos points de vue tout à l'heure. Déjà, on va commencer par un premier tour de présentation. Donc, on a un très très beau plateau aujourd'hui. Moi, je viens des musiques électroniques, donc je dirais plutôt un très beau line-up. Moi, je suis Anne-Lise, je suis directrice d'une association qui s'appelle La Petite, qui est une association féministe qui travaille pour l'égalité des genres dans le secteur culturel et créatif et qui est une association qui organise aussi des fêtes électro. Donc, l'organisation de fêtes, voilà, c'est un de mes métiers avec l'idée de la fête safe et de la fête inclusive. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais juste, voilà, je me présentais d'abord. On va avoir... On va avoir donc Chantal Dekmin qui se présentera tout à l'heure de manière plus approfondie, mais qui est l'autrice de Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public, que je vous invite à feuilleter, à vous procurer. Il est dans toutes nos merveilleuses librairies toulousaines. Je parle notamment de Flourifrère et d'Ombre Blanche. Donc voilà, vous ne serez pas obligé de faire votre choix, vous la trouverez dans les deux. Et ensuite, donc Chantal a travaillé pendant 40 ans sur l'espace urbain. Elle est anthropologue, elle est urbaniste, elle est architecte et elle a aussi travaillé sur l'accès à l'emploi et sur l'accompagnement des personnes, mais elle se présentera plus amplement tout à l'heure. Elisabeth Sanson, qui est directrice du festival Chahut à Bordeaux. Anaïs Vaillant, qui est anthropologue transdisciplinaire. Et Pierre Pilate, qui est artiste et qui porte le projet de la compagnie 1 Watt. Donc, je commence peut-être, avant qu'on redéfinisse la problématique, par vous donner la parole, tout simplement, pour quelques minutes, pour vous présenter, présenter votre parcours, peut-être au regard de cette fameuse thématique. Est-ce que, Madame Dekmin, ça vous va de commencer ? Chantal ? Allez.
Bonjour, donc Chantal Dekmin, j'ai l'âge de la retraite très largement, mais ce n'est pas encore arrivé. J'ai une vie professionnelle à cheval sur des questions très collectives, publiques, qui sont les espaces de la ville, l'espace public, et aussi des questions extrêmement, peut-être encore, ça m'a pris plus de temps avec la ville, des questions très très individuelles, qui sont celles du repérage des compétences des personnes dites non qualifiées. Je crois qu'on dit non qualifiées parce qu'on ne sait pas comment les qualifier, parce que je n'ai jamais personnellement rencontré de personne qui n'ait pas énormément de compétences en 40 ans d'écoute, de récits de vie, des centaines, etc. Donc je travaille à partir du récit de vie, écrit, repérage des compétences et accompagner les personnes qui sont dites inemployables à trouver un travail. Ben, ça, ce sont mes deux boulots.
On passe à Elisabeth.
Bonjour. Donc voilà. On va y arriver. Merci. Donc je suis Elisabeth Sanson, effectivement la directrice de l'association Chahut, qui est basée à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel, précisément dans le centre-ville de Bordeaux, dans un quartier populaire de Bordeaux. Moi, j'ai un parcours plus au départ dans l'institution, on va dire, culturelle. Très éloignée aussi des arts de la rue au départ. J'ai travaillé plutôt en région parisienne avant d'arriver à Bordeaux, à l'Odéon, à la ferme du Buisson, à la scène nationale de Sénart. Voilà, Et puis je suis arrivée à Bordeaux donc il y a 5 ans pour prendre la direction de ce projet assez inédit qui s'appelle Chahut et qui est un projet autour des arts de la parole. Donc qui se trouve agir en grande partie dans l'espace public. C'est en partie dans l'espace public et en partie en salle. Et voilà. Et c'est la particularité de Chahut, c'est que c'est une association qui est implantée dans un centre social, le centre Saint-Michel, depuis 30 ans, et qui œuvre, disons, au tricotage entre un projet social et un projet artistique. Et donc, depuis 30 ans, au-delà de la programmation artistique, il y a un projet humain qui est très fort et qui est beaucoup ancré dans l'espace de la fête, du partage et de l'expression de chacun. Voilà. Donc évidemment, on est particulièrement, comme chacun d'entre vous, impacté par ce qui se passe et par les questions de comment faire continuer à vivre dans cette utopie d'être ensemble tous et de sortir de l'entre-soi. Quand on est contraint comme ça à la distanciation. Voilà, donc je pense que c'est à ce titre-là que j'ai été invitée. Évidemment, moi, je suis pleine de questions, plus que de réponses. Et là, pour partager peut-être des expériences et des questions qui sont nées de ces expériences et ces tentatives qu'on a explorées sur le territoire de Saint-Michel et au-delà, à Bordeaux.
Bonjour à tous. Alors, je suis anthropologue. Mais j'ai tendance à dire que je suis anthropologue. C'est grâce à l'anthropologie que j'ai travaillé avec de nombreux artistes. Les artistes qui sont aussi, malgré eux, des anthropologues, souvent. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé sur la fête, comme beaucoup d'anthropologues. C'est plutôt agréable comme sujet de recherche, il faut avouer. Et c'est surtout très révélateur de la culture. Donc la fête est un moment où on peut étudier énormément de choses. C'est un phénomène social, politique, économique. J'ai travaillé beaucoup sur les carnavals, et notamment les carnavals sauvages, comme on les appelle. Je reviendrai dessus plus tard. Voilà, mais aussi sur des formes d'art de rue comme les batucada la mondialisation de ce phénomène, qu'on voit un peu partout en France, beaucoup aussi. Et j'ai été amenée avec toutes ces recherches à travailler avec différentes compagnies, et notamment la compagnie 1 Watt aussi en ce moment. Donc voilà, je découvre un peu ce monde des arts de la rue de manière fraîche et nouvelle.
Bonjour, donc Pierre Pilate, avec Sophie Bortuic, co-animateur directeur de la compagnie 1 Watt, clown comique à la base, qui présente donc des figures, des gens, des quidam dans l'espace public, et avec l'idée de faire rire, de créer du trouble, et de surtout se mettre en jeu dans des espaces non prévus. Ça, c'est ce qu'on essaye, on tente de plus en plus à faire. Et d'écrire des dramaturgies qui s'adaptent au lieu, qui se mettent dans les espaces où ça se passe, où on joue. Jouer avec l'énergie du lieu, l'architecture, l'humeur des gens, l'humeur du lieu. Et puis là, des questions sur qu'est-ce que c'est que nous, en tant qu'artistes, face aux questions, toutes ces questions qui se posent, nous et la politique, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, peau de terre.
Donc, merci à tous et toutes pour ces présentations. On sent tout de suite qu'il va y avoir un certain niveau dans cette rencontre. Donc, j'espère qu'on va arriver à suivre. Non, juste pour vous dire le contexte et l'origine de ce questionnement. Donc il y a énormément de professionnels aujourd'hui, de compagnies. J'ai regardé un petit peu la liste des personnes présentes, et puis il y en a certaines que je connais. Il y a des programmatrices et programmateurs ici, il y a également beaucoup d'artistes, de personnes qui travaillent autour des arts de la rue, dans des compagnies, dans la production, etc. Donc je pense que collectivement on a depuis un certain nombre d'années des contraintes sécuritaires d'abord, avec Vigipirate, etc. Et puis des contraintes sanitaires de plus en plus lourdes qui viennent réduire notre accès à l'espace public disponible. Alors, c'est vrai qu'avec Chantal Dekmin, on va davantage parler de la question de l'espace public urbain, mais y compris l'espace public rural, lui aussi, se contraint finalement, notamment avec les questions de barriérage, etc. J'écoutais donc un entretien que Chantal Dekmin faisait avec une urbaniste. Et dans cet entretien, elle citait Goffman, qui parle de rencontrer l'autre et du fait que la racine de la ville, la racine latine et la racine grecque, ont quand même donné trois mots importants qui sont l'urbanité, la civilité et la politesse. Ces trois mots ont pour racine commune la ville. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui vient réduire ces possibilités de rencontrer l'autre avec urbanité, de se parler avec civilité et avec politesse. Juste pour redonner, je dirais, les quatre grandes périodes que vous connaissez, notamment, je peux citer les restrictions et interdictions qui ont commencé à avoir lieu en 2014, notamment avec Vigipirate, et qui se sont encore accentuées en 2016 suite aux attentats où on a commencé à imposer les barrières et les compagnies privées de sécurité. Mais j'avais déjà envie de citer le manifeste pour la création artistique dans l'espace public de 2014 de la Fédé des arts de la rue, parce que je trouve que c'est une bonne introduction à ce dont on va parler aujourd'hui. Il disait à ce moment-là, et c'est encore et toujours valable, la multiplication de dispositifs repoussoirs au repos, à la rencontre, à la rêverie, à la convivialité, au nom de ce qui est supposé déranger, la présence de SDF, le bruit d'enfants, le rassemblement, rues et places publiques tendent à devenir un moins-disant de l'espace civique et politique. Elles illustrent le rêve ou le cauchemar d'une ville aseptisée et hautement contrôlée au nom de l'ordre et de la sécurité. Les débordements autorisés se réduisent le plus souvent à des privations marchandes des lieux partagés. Donc ça, c'était un manifeste de 2014. Ensuite, en 2016, on a donc ces barrières, ces compagnies privées de sécurité qui sont imposées au Festival des Arts de la Rue au nom de l'état d'urgence et cette instauration hein, qui est un peu nouvelle d'espaces clos avec des barriérages, avec des fouilles à l'entrée qui vont à l'encontre en fait, des valeurs de partage, de réappropriation de l'espace public et de convivialité que porte le secteur depuis 30 ans et qui vont mettre en danger aussi, et c'est ce qui est beaucoup commenté aujourd'hui, bah, toute cette relation et ce naturel de la relation qu'on essaie de mettre en place avec les citoyens et citoyennes, tout ce que le secteur des arts de la rue notamment essaye de construire depuis 30 ans est remis en question par ces contraintes physiques hein, tout simplement. Et en 2021, donc avec le Covid et la pandémie, on a donc cette demande qui est faite de, cette demande, c'est pas une demande, hein, c'est une injonction, de l'État qui est faite à l'air libre dans les espaces du quotidien, dans les espaces dans lesquels on circule, dans la rue. Il nous est demandé de délimiter des ERP de plein air, donc des établissements recevant du public de plein air, donc de barriérer, de jouer dans des espaces clos, dans des espaces cachés, et de mettre en place des systèmes de vérification. Et évidemment de contrôle. Donc nécessité de contrôler le pass est effectivement quelque chose qui vient nous contraindre encore plus et qui vient dénaturer cette fameuse relation qu'on essaie de tisser avec des pratiques qui se pensent effectivement au cœur des villes et des villages, comme le dit l'association d'ECNAREP, et qui ne peuvent pas se réduire à des lieux de spectacle aménagés en plein air. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui collectivement, c'est de se dire quel chemin de traverse pouvons-nous encore trouver ? Est-ce qu'il faut contourner ? Est-ce qu'il faut détourner ? Ou est-ce qu'il faut transgresser ? On sait que la fête, c'est aussi la transgression et que les contournements, les détournements sont possibles. Donc on va voir comment nos invités aujourd'hui se proposent, nous proposent et comment nous nous proposons ensemble de contourner, de détourner ou de transgresser. J'avais envie de vous parler aussi, et ensuite je donne la parole à nos intervenants, de la notion que certainement certains connaissent de chemin de désir. Les chemins de désir, c'est un terme qu'utilisent beaucoup d'urbanistes. Ce sont les sentiers illégaux. D'ailleurs, j'en ai pris un en venant, et c'est pour ça que j'ai de la boue sur mes chaussures. Des sentiers illégaux, imprévus, nés du désir de l'usager et non d'un tracé imposé. C'est-à-dire quand vous voyez une belle allée bien faite qui se croise vraiment avec des beaux angles droits, bah, très souvent, on voit des petits pas qui ont tracé un petit chemin dans la terre. Et ça s'appelle un chemin de désir. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que, à l'heure où tant de contraintes nous sont imposées, comment nous, acteurs, actrices des arts de la rue, du monde culturel, artistes, habitants, comment pouvons-nous tracer encore ensemble, dans ce temps de contraintes, nos propres chemins de désir ? Et je vais donc donner la parole pour démarrer autour de cette question-là à Chantal Dekmin, qui, dans un des textes que j'ai lus et que vous retrouverez dans son ouvrage « Lire la ville », nous dit notamment « La ville est un outil depuis 6000 ans pour vivre ensemble. Aujourd'hui, notre espace vital est en train de disparaître. » Donc Chantal Dekmin, vous parlez de disparition, de désagrégation de la ville, de menaces sur notre vie psychique et sociale. Donc en quoi, de votre point de vue, l'espace public est-il devenu inhospitalier ? Et comment, en tant qu'urbaniste, architecte, anthropologue, travaillez-vous cette question ?
Ben, je vais essayer de répondre. Vous avez évoqué l'utopie, hein, l'idée d'aseptiser l'espace, par exemple la ville. Toute utopie portant sur la ville et l'espace est une dystopie. On l'a largement éprouvé à plusieurs reprises. Et une dystopie, c'est simplement qu'on peut continuer à vivre physiquement, matériellement, etc., mais le désir de vivre est parti, la vie n'a plus d'intérêt. Quoi. Voilà, c'est ça une dystopie. Donc on peut, je crois, se poser la question de l'utopie dans la ville. Et effectivement, nos conditions de vie, elles sont d'abord spatiales. On parle des choses qui ont lieu. Et je crois que tout est spatial et nous vivons dans l'espace. Et au départ et à l'arrivée, je dirais que tout, même le plus virtuel, la plus théorique des équations, des formules chimiques, se traduit dans le corps. On est complètement dans la matérialité, dans le corps, dans l'espace. Que ce soit, que ça se traduise par du plaisir ou par des blessures, de la maladie et la mort. Il me semble que le fait d'habiter le monde n'est pas du tout évident pour les humains et que habiter son énigme a demandé beaucoup de construction et que l'art, le théâtre, la parole, les images, c'est ce qui nous permet d'habiter le monde et son énigme. Et la ville aussi, c'est une organisation, la ville, qui, Annelise l'a dit, existe comme l'écriture depuis 6000 ans, et on en a autant besoin que de l'écriture. C'est aussi indispensable à la vie des humains que l'écriture, l'écriture pouvant prendre toutes sortes de formes. Et la ville n'étant pas liée à une question de taille, un hameau c'est déjà une ville, même une ferme. Le mot ville, ça vient de villa, la ferme romaine, quoi, la Bastide en Provence. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas non plus une question d'époque ou de nostalgie, c'est une question de structuration de l'espace et du rapport entre l'espace privé et l'espace public. La ville, en fait, à la fois, elle nous permet d'habiter sans glisser dans l'angoisse, je dirais, d'être contenu, c'est un contenant de la vie individuelle et sociale, et elle nous apprend. Vous parliez de Goffman. La première des trois définitions de Goffman pour l'espace public, c'est on y rencontre de l'autre. Ça veut dire qu'on y rencontre de l'imprévu aussi, du non attendu, de l'inattendu, etc. Et ça forme à la fois notre tolérance, notre curiosité et beaucoup de choses comme ça. Ensuite, la ville est entièrement... C'est une construction extraordinaire, quoi. C'est comme les termitières, c'est une espèce d'ensemencement. La ville commence à se poser quelque part parce qu'il y a une tombe, parce qu'il y a un rivage, un carrefour, un sommet d'où on peut guetter, etc. Et puis, comme une termitière, elle prend ou elle ne prend pas. C'est une question de masse critique. Elle va se développer et elle va se fonder. Et c'est ça l'essentiel de la ville. C'est la fondation de la ville. Et on sait qu'une part importante de cette fondation, cette fondation n'existe que s'il y a du symbolique et de l'imaginaire qui s'y met. On a toujours des récits de fondation des villes, pour des vraies villes, quoi. Donc, en fait, pour moi, il y a une grande homogénéité entre tout ce qui est votre art. En plus, quand on dit les arts de la rue, ça veut dire les arts de la ville, quand même. Même si la rue n'existe plus, enfin, la rue, c'est terminé. Mais quand même, les arts de la rue, le théâtre, c'est la même chose. C'est une homogénéité complète avec la ville. Quand on a commencer à mettre le théâtre à l'intérieur, on a représenté la ville en perspective et en miniature sur la scène. Enfin, on est dans une homogénéité, un échange constant entre la ville et le théâtre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, que la ville, c'est l'habitat naturel des humains et que il nous faut la ville pour nous orienter, pour comprendre le sens. Quand je dis ça se fonde à un endroit, il y a des polarisations. La ville est faite de polarisations. Il y a des endroits vers lesquels, vous savez, le terrain est plus cher si on s'en approche, le bord de mer ou telle institution, etc. Et puis des endroits de déshérence. Toute la ville est marquée par des valeurs, je dirais des valeurs vectorielles. Chaque centimètre carré a une valeur vectorielle. Tout est orienté, a du sens et nous permet de comprendre aussi, d'intégrer dans une culture qui n'est ni orale ni écrite, d'intégrer comment on vit avec les autres. Voilà. Donc la ville est quelque chose de complètement indispensable à notre survie psychique, imaginaire, en effet, symbolique, sociale. On parle beaucoup de tout ce qui est l'atteinte écologique, la biodiversité, le changement climatique. C'est extrêmement. Enfin, on sait qu'on va dans le mur, on commence à en prendre conscience. Mais ça menace notre survie physique. La disparition de la ville, elle menace notre survie psychique, sociale, imaginaire. Ça me paraît au moins aussi grave, mais il n'y a aucune alerte qui est portée là-dessus. Or, il y a eu une atteinte extrêmement définitive avec le mouvement de l'urbanisme moderne. Enfin, tout le monde a vu ça quand même. À partir du milieu du siècle dernier, on a, alors qu'il y avait eu déjà beaucoup d'atteintes à la ville jusque-là, parce que la ville a des ennemis solides qui sont la sécurité et l'hygiène. Donc on a vu la ville déjà être détruite par... si on regarde un plan de Marseille, c'est étonnant, quoi. Il y a une désagrégation complète du centre-ville, petit à petit, pour des raisons de sécurité ou des raisons de santé, etc. Donc au lieu de la assainir, comme a fait Haussmann, quand même, on se plaint d'Haussmann, mais il a fait un super boulot d'assainissement, de possibilité de circuler, d'aération. Il a fait que la ville soit un outil de santé aussi, et pas seulement les hôpitaux. Enfin, c'est une démarche qui a été intéressante. Néanmoins, ce n'était pas forcément nécessaire de démolir les tissus urbains du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle pour faire ça. On pouvait les améliorer. Voilà. Donc les atteintes à la ville qui ont eu lieu, ça a d'abord été au 19e et début du 20e avec la sécurité et l'hygiène, et puis ensuite on a toutes les atteintes successives. Le mouvement de l'urbanisme moderne nous a désagrégé en 4 fonctions: la ville, habiter, travailler, le loisir et je ne sais plus quoi d'autre, et séparer tout ça, ça fait qu'on n'a plus aucune mixité dans la ville. Donc on perd complètement la vie, le mouvement brownien, enfin la vie, le mouvement naturel de la vie qui est dans les échanges. Et puis il a aussi désemboîté les espaces creux, des espaces pleins. C'est-à-dire dans la ville constituée, vous avez une trame entre, c'est-à-dire que le U de la rue, la peau de l'espace public, c'est la peau de l'espace privé. Voilà, ils sont constitués l'un par l'autre. Et si vous voulez faire le plan de la ville, vous dessinez aussi bien les creux que les pleins, c'est pareil. Avec la charte d'Athènes en 1933, on arrive à des constructions où on parle de la table rase. C'est-à-dire qu'on commence par enlever le territoire, son histoire et tout ce qui porte, sur quoi on devrait s'appuyer pour savoir comment continue l'histoire si on n'était pas arrogant. Donc on fait la table rase et après on pose des objets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, sauf un rapport d'héliotropisme. Assez souvent, c'est orienté par rapport au soleil, etc. Donc le désemboîtement de la ville a été redoutable pour la constitution de la ville. Et ça, ce désemboîtement, c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, avec en plus tout ce qui est la marchandisation des services de la ville, la financiarisation, l'agrandissement des échelles qui est délirant, c'est-à-dire qu'on a des échelles qui ont été multipliées par 500, on a des parcelles énormes entre lesquelles l'espace public disparaît parce qu'il devient juste de minces filets de circulation, et on est en train de complètement désagréger cette ville. Et puis surtout, on perd, en ayant fait des zones commerciales, on perd toute la richesse extraordinaire du commerce de rez-de-chaussée qu'on a encore à Paris un peu, enfin bien quand même, mais qu'on ne trouve plus nulle part. Alors les maires s'arrachent les cheveux en disant tout mon commerce de centre-ville s'en va, il n'y a plus d'animation. Or le commerce, c'est à la fois apprendre la vie aux gens. Dans un commerce, on apprend beaucoup de choses. C'est une sûreté non agressive de fait. C'est énormément de choses. Le commerce, c'est un enjolivement de la rue, c'est un élargissement des rues, c'est des petits théâtres qui sont dans les vitrines. Enfin, il y a une générosité extraordinaire du petit commerce. Donc les maires se plaignent de ça. Et de l'autre côté, ils développent Auchan et compagnie dans leurs zones commerciales. Donc il y a une contradiction majeure. Et moi, il me semble que si on n'arrête pas avec ça, on est en train de perdre quelque chose qui permet... Alors, on parle du vivre ensemble, c'est rigolo quand même comme terme, parce que c'est la novlangue, c'est la langue de bois. Quand on dit un substantif à la place d'un verbe, c'est qu'on parle de l'inverse. Donc c'est le mourir seul, je crois, dont il s'agit. Et de fait, vivre ensemble, il n'y a qu'avec la ville, c'est le seul outil qu'on a, et c'est le seul outil qu'on a pour lutter contre les catastrophes, les pandémies, etc. Voilà. Or, on est en train de le démolir complètement.
Merci Chantal pour cette Belle introduction. Donc on parlait à l'instant, hein, Chantal Dekmin nous parlait de cette ville qui devient inhospitalière et qu'on est en train de démolir. Ça me permet de laisser la parole maintenant à Elisabeth Sanson qui peut-être nous dire comment est-ce que les arts de la rue et en tout cas comment est-ce que déjà le travail du festival Chahut peut redonner à la ville ses fonctions d'hospitalité et comment en fait, et c'est ça qui va être tout à fait, enseignant et intéressant pour nous, comment est-ce que à la fois la fonction d'hospitalité est au cœur du projet de Chahut et comment également Chahut a trouvé dans ce contexte nouveau et encore plus contraignant des astuces pour échapper à ces contraintes et vous parlez notamment dans un de vos projets que vous allez nous décrire de la notion de rassembler sans rassemblement en plein confinement.
Effectivement, à Chahut comme ailleurs, on a été confronté à des apories de ce style. Comment réunir sans rassembler? Comment faire un festival sans faire la fête? Et sachant que la question de la fête, pour nous, elle est liée à une dimension qui n'est pas du tout de l'ordre de l'anecdotique, du futile, du non essentiel, puisque c'est l'endroit où en fait on se retrouve. Et des personnes qui d'habitude ne font pas la fête ensemble, c'est-à-dire des usagers d'un centre social, des festivaliers, des gens qui passent par là, des voisins. Et je trouve que la période actuelle nous a fait ressentir encore plus la nécessité de sortir du cercle familial, du cercle amical, dans lequel on a été beaucoup confinés au sens propre. Et donc on s'est retrouvés avec ce besoin très fort d'ouvrir des endroits de retrouvailles, en fait, tout simplement, et assez humblement, j'allais dire, dans le sens où je pense que ce que m'a appris aussi le travail avec Chahut, c'est non seulement l'humilité, mais aussi la question de l'échelle, en fait. Moi, je ne dirais pas que je travaille à l'échelle d'une ville, je ne dirais pas non plus que je travaille à l'échelle d'un quartier, je dirais que je travaille avec des personnes qui, j'espère, viennent d'horizons différents et qui s'y retrouvent et qui construisent avec nous le projet de l'association. Mais en fait, pour moi, c'est trop gros. À mon échelle, c'est des trop grands mots. Et là où je trouve du sens, c'est dans des échelles qui sont finalement à ma portée, d'une association avec 3 salariés, 100 bénévoles, et des animateurs d'un centre social qui sont partie prenante du projet, autant qu'ils le peuvent, sachant qu'ils sont eux-mêmes soumis à des contraintes qui sont très fortes aussi. Quand on a inventé l'édition 2021, on l'a appelé Presque Chahut. On avait fait un mini Chahut en 2020. Là, on a fait un Presque Chahut. Non pas parce que c'était une édition dégradée, j'assume pas du tout ce terme, mais parce que justement, notre QG habituel qui est dans le centre social n'a pas pu être mis en place. Donc on s'est dit, à partir du moment où on n'est pas dans notre cœur battant du quartier, là où d'habitude on se retrouve, on n'est pas vraiment dans une édition de Chahut, mais qu'est-ce qu'on invente à partir de ces contraintes? Donc il y a eu plusieurs tentatives. On a déjà, en plus c'était une édition anniversaire, on fêtait la 30e édition du festival, donc on avait un fort enjeu aussi de retrouvailles, et on s'est dit on ne va pas faire une rétrospective non plus des 30 ans de Chahut, on va regarder est-ce que l'esprit de Chahut, il a disparu pendant la pandémie, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il a disparu, et est-ce que, en tout cas il est en danger, et ce danger-là, au lieu de pas le regarder, on va l'observer aussi avec les bénévoles et les gens qui font Chahut. Et donc on a fait notamment une carte blanche commande, enfin un travail avec la GK collective, qui travaille sur du théâtre un peu caché, invisible. Et je vous parlais d'échelle, donc on s'est dit on va faire un anniversaire en fait invisible, puisqu'on est invisibilisé, on est non essentiel, et que pourtant on a besoin de ce rituel d'anniversaire. Pour moi, la question du rituel est très importante dans la mise en œuvre d'un festival. Et donc ce rituel, on va le vivre par petits groupes de 5 pendant toute une soirée, pendant 4 heures consécutives. Les personnes venaient et avaient comme ça dans différents endroits de la ville
les étapes d'un rituel. Et l'enjeu du rituel, c'était d'aller chercher si l'esprit de chahut avait disparu, ou en tout cas, où est-ce qu'il pouvait se nicher. Et donc, il y avait différentes expériences à vivre ensemble. Depuis, donc on commençait par un côté un peu catastrophiste où les trois personnes qu'on était membres de l'équipe disaient bah voilà, en fait, on est vraiment inquiète, ce qui est vrai. Et donc, vous allez nous aider à traverser cette inquiétude et comment on va. Et donc, on a fait un parcours où il y avait à un moment donné une petite fête dans un appartement à 5 personnes. Il y avait un rituel sous la flèche de la place Saint-Michel où on se remémorait ce que ça avait pu être avant, une sorte de, voilà, d'enterrement de ce que ça avait pu être. Et puis après, on passait au gâteau. On arrivait dans un café où il y avait des gens qui avaient fait un gâteau. Et donc, on était là avec notre gâteau en petit groupe. Et puis, pour finir par une fête, une grande retrouvaille dans une ancienne chapelle. Et là, en fait, on découvrait que si jamais il y a un esprit de chahut, il est finalement à l'intérieur de chacun des gens qui sont là. Et que la fête n'est pas seulement dans l'ivresse ou dans l'effervescence, même si le festival crée des moments d'effervescence. En fait, le sens, il est à partir du moment où nous, on est là. Et donc, voilà. Et donc, ça finissait par un... Et en fait, c'était assez bienfaisant, et pour l'équipe et pour les participants, de se coller, en fait, tout simplement au problème et de le ritualiser et finalement de dire, en fait, on est là et ça existe. Et la flamme, il faut la protéger parce qu'elle est vacillante en ce moment. Et donc, on a une responsabilité, nous, mais aussi chacun des gens qui font le festival, qui participent, qui sont spectateurs, acteurs, etc. Donc voilà, ça, c'est un exemple de rituel. Mais encore une fois, c'est à une échelle. On n'est pas dans des fêtes qui rassemblent 5000 personnes du tout. C'est vraiment... mais ça, je trouve que là, à son endroit, ça a eu du sens de faire ça pour nous. Donc ça, c'est, on va dire, un contournement. Après, on a eu des espaces de transgression un peu plus nets, avec donc le jour de l'inauguration. Habituellement, on fait un rassemblement sur la place Saint-Michel. On lance le festival dans le quartier. Donc là, c'est adressé, on va dire, de manière collective. Et là, donc ça, c'était pas autorisé en juin. Donc tout, c'était du 10 au 20 juin. Donc on était on a commencé le lendemain du jour où le couvre-feu est passé à 23h pour vous remettre un peu les différentes étapes de contraintes et avant les histoires de passe sanitaire. Donc on était dans ce moment historique puisque chaque finalement mois porte son lot de contraintes. Et donc c'est important de voir que les réponses ou les inventions sont à chaque fois liées à ce qui nous arrive. Et pourquoi je dis ça? Oui, donc du coup, l'inauguration, au lieu d'appeler un rassemblement, on a fait un pas de danse. Pas de danse, point d'interrogation, pas de danse. Donc sur l'impossibilité et la nécessité qu'on avait justement de danser, parce que c'est un festival des arts de la parole où on danse beaucoup à Chahut. On danse dans l'espace public notamment. On a un partenariat on travaille avec une compagnie qui s'appelle EUCINE, qui font des booms dans l'espace public. Donc on danse dans la rue et on emmène sur notre passage les gens qui veulent avec une playlist qui est composée la journée avec les rencontres qu'on a faites dans le quartier. Voilà. Donc ça, c'est des booms qu'on a faites notamment en 2020 sans l'autorisation de la préfecture qui nous avait dit de ne pas le faire, qu'on a fait quand même. Donc ça, c'est une transgression. On s'est dit, on le fait, quoi. Par contre, on n'a pas... on a dit dans le programme qu'on le faisait, mais on n'a pas donné le lieu de rendez-vous. On a dit il y aura des booms. Et voilà. Et les gens, fallait qu'ils cherchent où est-ce que ça commençait. Ou alors qu'ils tombent dessus par hasard s'ils étaient dans le quartier. Et pas de danse aussi, on l'a pas mis dans le programme. On l'a annoncé via d'autres réseaux un peu alternatifs. Et on a fait un partenariat avec une radio locale qui s'appelle La Clé des Ondes. Et on leur a donné une playlist sur que des titres sur la danse, et qui avait trait à la danse et à la résistance. Et en fait, les gens étaient invités à allumer la radio. On avait le droit de le faire. Donc on a allumé la radio. Et puis on a dansé sur la place Saint-Michel quand même le jour de l'inauguration. Voilà, donc ça, c'est un contournement transgression dans le sens où on n'a pas fait de demande d'autorisation, de manifestation, de quoi que ce soit pour ce rendez-vous. Voilà. Donc c'est juste des exemples, je m'arrête peut-être, mais j'en pour dire que après j'avais aussi envie de parler du projet de la vaste entreprise, en plus ils sont là, qui était le projet Légende, qui est un projet qui là permettait de rassembler, mais plus dans l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire pas physiquement, autour d'un récit commun. Et donc là, on change d'échelle, puisque là, on était complètement à l'échelle du quartier. Donc c'était une installation plus qu'un spectacle. Donc une installation de légendes très visibles qui ont envahi l'espace urbain depuis le marché des Capucins jusqu'à la place Saint-Michel pendant 10 jours, avec des légendes qui témoignaient de ce que les gens vivent dans leur tête, derrière leurs fenêtres, dans leur vie quotidienne. Et au lieu de légender des moments historiques, on légende des moments intimes. Et donc, on se retrouve pendant 10 jours avec l'imaginaire qui part au détour d'une rue.
Je peux donner un exemple de légende.
Je peux donner un exemple de légende. Ici, le telle date, disons 12 janvier 92, M achète, cherche du travail et des poireaux, par exemple. C'est pas exactement ça, mais là, j'ai l'auteur devant moi, donc je suis un peu intimidée. Enfin, ou alors M met un casque et écoute le Requiem de Mozart, et tout d'un coup, le quartier, lui... il voit le quartier différemment. Mais c'est très mal dit, hein, excuse-moi. Bon, bref, c'est des légendes qui sont écrites, hein, y a un travail d'auteur, mais qui, en tout cas, qui sont en partie collectées sur le territoire. Donc, des vrais... donc, il y a des un lien avec les parcours de migration des habitants de Saint-Michel. Donc M pose ses valises pour la première fois à tant de kilomètres de Rabat, par exemple. Voilà, donc où vient s'installer sur ce banc en arrivant de telle ville. Donc ça, c'est des repères aussi pour les habitants, puisque c'est un quartier où il y a eu différentes couches de migration depuis des années. Donc c'était aussi rendre hommage à ce quartier par les légendes. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ça rassemble dans le sens où tout le quartier, à un moment donné, se trouve pris dans une installation qui fait parler, qui fait discuter, et avec des permanences tous les jours de l'équipe, donc là sans demande d'autorisation non plus. Ouais, je m'arrête. Voilà, donc du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le festival, on a cherché aussi comment tisser des temps de rencontre et d'échanges en contournant les autorisations. Mais je m'arrête.
Vas-y, pas expliquer.
Donc, à partir de cette notion de détournement, contournement, transgression, ça me permet de faire le lien avec le travail que fait Anaïs, puisqu'elle travaille donc, comme elle le disait, sur la notion de fête, et surtout sur cette notion de fête sauvage, notamment le carnaval. Et cette fête sauvage est une transgression en elle-même, et si vous êtes d'accord, pardon Anaïs, vous allez nous donner quelques éléments, peut-être sur la fonction de la fête sauvage aujourd'hui sur le plan anthropologique, puisqu'on parlait de cette obligation presque de transgression dans laquelle on s'est peut-être tous et toutes retrouvés à des moments, mais il y a aussi une fonction finalement sociale, politique, à cette transgression qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc peut-être que Anaïs, vous pouvez nous donner quelques éléments sur cette fameuse fête sauvage. En quoi consiste-t-elle et en quoi est-elle un phénomène politique ?
Alors déjà, avant de parler de fête sauvage, je me suis dit qu'on pouvait parler de transgression. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Puisque, en écoutant Elisabeth, on se rend compte quand même qu'on se retrouve vite à transgresser, malgré nous. On se retrouve vite dans la clandestinité, dans la dissidence, en continuant à faire des choses qu'on a toujours faites. Donc c'est assez rapide, on se retrouve à transgresser assez rapidement, mais la notion de transgression, j'ai cherché un peu la définition, mais bon, vous la connaissez tous, hein, mais on est dans un dépassement des limites, on est dans le fait de ne pas se conformer à quelque chose de naturel, on est à mettre en péril la communauté, aussi la collectivité. Alors dans un monde où on est
en permanence dans l'état d'urgence, dans des dispositifs extraordinaires, qu'est-ce que devient la transgression finalement, par rapport à quoi on transgresse? Et en géologie, la transgression, c'est la montée du niveau des eaux. C'est quand l'eau arrive sur les continents. Donc on se demande encore de quel côté on transgresse finalement. Et c'est une manière de dire que de parler de légitimité, voilà. D'un côté, donc, comme je disais, on se retrouve à transgresser entre guillemets en faisant des choses qu'on a toujours faites et qu'on estime nécessaires et essentielles. Et d'un autre côté, face à nous, il y a aussi une autre forme de transgression qui est inacceptable et qui est dangereuse et qui met, pour le coup, vraiment en péril l'humanité. Comment, par rapport à ça, on va construire notre légitimité à faire des choses illégales, parce que c'est le sens, comme tu dis, qui compte. Et c'est ce besoin de sens que j'entends dans tout ce que tu racontes. Donc le besoin de mythe, donc de légende et de mythe, et le besoin de rite. Et c'est là où la fête, elle intervient. C'est-à-dire, la fête, c'est un moment rituel, c'est un moment qui marque le temps, déjà. Donc c'est important aussi de se remettre dans les cycles, dans le temps qui passe, cette nécessité qu'on a de marquer individuellement le temps, c'est-à-dire les âges. Là, je parle du point de vue de l'anthropologie, de quelque chose de très général, du berceau à la tombe, comme disait un folkloriste célèbre. On marque nos étapes de vie. Là, on est dans un monde où on est allé jusqu'à priver les gens de rites funéraires pour leur propre mort. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez extrême. On va enlever le contact, on va empêcher les communautés d'exister, en fait. Donc on a besoin de ce sens, et ça nous rend légitime de dire que c'est ce qui fait qu'on est humain. La fête, comme la musique, comme la danse, ce sont des spécificités de l'espèce humaine. On en a besoin. Le sens, c'est un peu la guerre en ce moment. Il y a un terme qui n'est pas de moi, mais qui est le terme de censure, mais avec un S, S-E-N-S-U-R-E. Et c'est le fait qu'il y a une censure à l'ancienne qu'on connaît, hein, qui est l'empêchement de l'information. Et il y a la censure, on va dire, contemporaine, qui est la profusion d'informations et qui nous empêche de penser, quoi. Et donc, on est forcément, en tout cas là, avec les artistes, mais aussi, en fait, tout le monde, comme tu dis, les associations, dans une obligation de recréer du sens, en fait. Et un sens qui s'appuie sur, effectivement, du réel. Donc la vie autour de nous, notre environnement, la ville ou le quartier, ou des anecdotes de vie, enfin de l'expérience. Et la fête est justement un espace d'apprentissage, c'est un espace d'expérience. Donc c'est des corps déjà, et c'est aussi une expérience de la transgression telle que nous on l'aime, et pas celle qu'on a face à nous. C'est un apprentissage, la fête. Elle permet l'apprentissage du collectif, se confronter à des moments un peu intenses, un peu denses. C'est des moments où on voit les choses autrement aussi, l'espace autrement. Et donc, j'ai encore un peu de temps. Ça va ?
2 minutes.
Ouais, très bien. Il y a un deuxième tour, peut-être. Pour finir sur cette histoire de carnaval sauvage, par exemple, le carnaval est une fête très ancienne. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le carnaval, comme fête calendaire, est mobilisé par des collectifs qui sont urbains, comme une nécessité politique. Donc on va investir l'espace public, mais avec la légitimité de la tradition, en fait, de la fête calendaire. Comment ça va nous ancrer dans une légitimité à dire nous avons une nécessité à faire le carnaval, une nécessité à nous mélanger. Cette question d'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et donc, les cultures populaires vont se voir réappropriées par des collectifs qui sont politisés et qui vont se revendiquer comme sauvages. Et pas seulement parce que c'est pas autorisé, puisque c'est légitime, on fait une fête, elle n'est pas autorisée, mais on a besoin de la faire et elle a toujours existé. Sauvage, dans une revendication aussi, et dans une critique de la civilisation actuelle. Hein, sauvage, par la définition des anthropologues hein, des années, depuis les années 60, c'est-à-dire qui ont étudié les sociétés primitives, les sauvages qui vont être dans un désir de société sans État, les sauvages qui vont être dans une vie d'abondance réelle qui a existé et qui pourrait exister, donc dans une critique de cette civilisation, de cette politesse aussi, quelque part. Et donc, on est dans quelque chose d'assez essentiel. Qu'est-ce qu'on va revendiquer dans ces carnavals sauvages ? Ben déjà, la légitimité de faire la fête, la légitimité d'être dans la ville, dans l'espace, la légitimité de transgresser, mais une transgression qui fait, qui crée de la vie, et pas qui la détruit, et donc qui fait communauté.
Et merci. Merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage. J'avais envie de rebondir sur, pour redonner la parole à Pierre, autour de quelque chose qu'on s'est dit au téléphone quand on préparait cette rencontre. Vous parliez donc de légitimité, comment on se sent légitime de prendre la rue, comment on part pas et on s'autorise, on se sent légitime à ne pas partir de cet espace de la rue. Et vous me disiez que le carnaval était une façon de ne pas forcément être vu, mais être dans l'expérience. Alors, est-ce que le carnaval est un spectacle ? Pour certaines villes, il l'est devenu. On peut penser au carnaval de Nice, etc. Mais je trouve assez fort cette phrase de ne pas forcément être vu, mais être dans l'expérience. Et ça m'a beaucoup fait penser à la discussion qu'on avait eue aussi avec vous, Pierre, au téléphone, puisque vous parliez de proposer une expérience aux personnes, de les déplacer, et y compris de les déplacer physiquement dans l'espace public, et de redonner le goût de ces usages à l'espace public. Et ensuite, vous travaillez tous les deux en ce moment sur un projet qui a pour thème les luttes. Donc j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous redonner le goût de ces usages à l'espace public ? Quel est ce goût ?
Waouh ! Alors, tout d'abord, oui, une pratique dans la rue que j'ai avec mes partenaires depuis longtemps et qui est toujours en recherche. Il y a toujours eu cette idée, effectivement, avec ce qu'on fait, de ne jamais être sur une scène. Et effectivement, d'être au milieu des gens, n'importe où, de traverser de travers, de se mettre dans des endroits où on ne devrait pas se mettre. J'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de tes chaussures boueuses, de faire des créer de chemin. Et parce que redonner ce goût, se confronter à ces histoires de barrières, toutes ces contraintes qui nous arrivent. Alors je me pose la question, mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'artiste avec ce que je sais faire, ma façon de bouger, ma façon de jouer, mon rapport aux gens dans le spectacle, qui peut être de les ignorer complètement jusqu'à à être tout proche, à les regarder dans les yeux. Et dans ce qu'on fait, on fait beaucoup d'improvisation, on joue beaucoup avec l'immédiat, on essaie. Bon, c'est des formes de réponse, jouer avec l'immédiat, jouer avec ce qui se passe, être au milieu des gens, disparaître, revenir, réapparaître, être le protagoniste. Et dans le dernier spectacle, on est, en parlant justement de tout ce qui est improvisation, on s'est fait une liste de ce qu'on faisait. On a dit être improductif, construire, déconstruire, se méfier des résultats, chercher le trouble, échouer avec tranquillité. Et je prends ces mots de Novarina dans un livre qui s'appelle Lumière du corps. Et il dit disperser, signaler, démembrer, dilapider l'espace, lancer, démonter, découper, ouvrir, déplier. Perdition, chaos, décomposition, se déconstruire, se rassembler pour éclater les lieux communs, travailler les paradoxes, fabriquer des brèches pour farcir le monde imaginaire, laisser le souvenir d'une chute, l'étonnement comique. Il y a du boulot. Et C'est un metteur en scène de théâtre, de salle. Et il raconte tout ça. Et nous, en tout cas, il y a cette idée d'être, en tout cas, au milieu des gens, au lieu qu'ils soient spectateurs, qu'ils soient environnés de notre proposition, entraînés dans le cercle de notre action pour que, finalement, il soit lui aussi en déséquilibre, que lui aussi vibre, qu'il vive une expérience individuelle et à la fois être à côté d'autres gens qui bougent, qui comprennent rien, qui rigolent, qui mais qu'est-ce qu'ils font, mais en même temps ça bouge, ça danse. Mais on est là, au milieu de l'endroit. Et effectivement, je réfléchissais à ce que je vais raconter, je me souvenais quand on faisait le projet Les Hommes en Noir, c'était au début, ça faisait les grands yeux parce que tout d'un coup, on était en dehors. Il y avait le festival avec les lieux consacrés au spectacle. Et nous, on sortait de ces lieux, on se mettait au milieu des rues, on grimpait dans les maisons. Et tout d'un coup, c'était une façon de dire que l'endroit, cet endroit, il est à tout le monde. Et puis, on peut s'y mettre. Voilà. Je voulais juste encore parler de ce prochain projet dont tu parles, parce que tout d'un coup, il y a eu les Gilets jaunes. Et tout d'un coup, moi, ça m'a frappé, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un spectacle sur un rond-point. Et puis, je me dis, quand même, il faut le faire un jour. Hein. Et puis ces gens-là, ils l'ont fait à notre place. Ils y sont allés. Et ce qui est important, c'est qu'au lieu de sortir de chez eux pour aller bosser, pour aller ne rien faire au bistrot, ou tout d'un coup, il y a un moment, c'est devenu insupportable. Ce n'est pas seulement une histoire de prix de l'essence, c'est qu'à un moment, cette vie-là, on ne la veut plus. Et donc, on sort de chez soi et on va ailleurs. Et on va sur un rond-point, on fait une cabane, on commence à discuter, on se met au bord du trottoir, on traverse le rond-point n'importe comment. Et moi, j'ai dit, tiens, ça, c'est le truc que je fais. Et donc, je me suis dit, il faut... Il y a un mec qui s'appelle Frédéric Lordon, il dit, se refaire le corps. Parce que tout d'un coup, les gens, ils se mettent le corps ailleurs, ils se mettent le corps autrement. Et nous, on fait ça aussi. On se met le corps, on joue aux autistes, on tourne en rond, on se prend les bordures, les portes. Et on se dit, moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Et il y a une convergence. Et c'est un peu l'objet de notre prochain projet. C'est de voir comment on circule ensemble, collectivement, comment on invente des gestes de lutte, des manières de faire, de parcourir la rue, de passer au-dessus des barrières et puis de dire qu'elles n'existent plus ou qu'elles n'existeront plus et d'essayer de trouver ces choses-là. Et je vais presque rester là et pour vous parler du spectacle qu'on joue là. Alors, c'est léger, on est dans la rue, elle raconte sa vie, c'est très beau. Raconter dans la rue, raconter des histoires. Maintenant, c'est quand même un moment important. On est dans la rue, on a appris à s'éviter avec les masques et tout, et de s'arrêter dans la rue et de raconter. Danser, moi je voulais danser, donc on danse, il y a de la musique, c'est fort, ça danse. Il y a un moment, c'est folklorique, il y a une danse folklorique, il y a un moment, il y a une parade. Voilà, et c'est léger, mais c'est ça, on traverse. On traverse la ville. Et je voulais juste vous citer cette phrase d'un livre qui s'appelle « Rêver l'obscur, femme, magie et politique », qui dit « Nous dansons, car après tout, c'est ce pourquoi nous nous battons. Pour que continue, pour que l'emporte, cette vie, ces corps, ces seins, ces ventres, cette odeur de chair, cette joie, cette liberté. »
Donc merci et bravo à toutes et tous pour vos interventions. Il nous reste donc, voilà, ça a été un peu plus long que prévu, comme toujours. Mais bon, ça valait le coup, non ? Il nous reste une 20-25 minutes, donc je vous propose de laisser la parole à la salle avec, si vous avez, vous, des questions, des remarques, des témoignages pour nos intervenants, intervenantes. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 3-4 questions d'affilée. pour essayer de voilà, les transmettre au plateau, pour essayer d'aller plus vite et pouvoir avoir plusieurs personnes qui ont la parole dans ce temps de questions-réponses. Donc c'est Aurore qui va faire passer le micro. Est-ce que vous avez des questions? Donc vous pouvez préciser à qui vous voulez la poser, ou vous pouvez la poser aussi collectivement, et on verra en fonction des réactions qui a envie d'y répondre. Donc est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont des questions, des témoignages? Bravo.
Merci. Donc je me présente, Thérèse Toustouche, et je suis de la production de spectacles, arts de rue et cirque, et je suis aussi la Fédération des arts de la rue. Donc je voulais, c'est juste, c'est pas une question, donc je remercie les intervenants pour ces éclairages, et je voulais juste intervenir par rapport justement quelque chose qui a été cité par au début en présentation de cette rencontre. On a parlé d'ERP. Donc ERP plein air dans la rue, et justement une des façons que l'on a dans l'espace public, justement, et on le défend par la fédération et par toutes les personnes qui travaillent dans l'espace public, donc il faut savoir que dans la rue il n'y a pas d'ERP, et c'est ce qui permet, il n'y a pas d'ERP plein air pour les espaces publics, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on met de la rue balise autour d'un espace qu'il y a un ERP plein air. L'ERP plein air, c'est pour les stades, enfin, les terrains de sport, etc. Donc c'est une façon pour les arts de la rue, justement, de jouer sans ERP. Et c'est une façon de se positionner vraiment dans l'espace public. Et c'est une notion de liberté. Et c'est ce qui a permis, justement, au Festival de Grand Chemin, j'ai Sophie à côté, c'est ce qui a permis au Festival de Grand Chemin de jouer, justement, dans l'espace public de la ville, sans pass sanitaire, parce que justement il n'y avait pas de contrôle de public, il n'y avait pas de billetterie, parce qu'il n'y avait pas d'ERP. Et actuellement, le pass sanitaire est lié justement à l'ERP. Dès qu'on pénètre dans un espace public qui est donc, paramétré avec l'ERP, chapiteau, salle, cinéma, etc. Donc je voulais juste souligner que c'était une façon pour nous, dans l'espace public, justement, de réserver cet espace-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on défend, et ça me paraissait important de le noter. Voilà, c'est juste ce que je...
Merci. Pensais. Donc, un contournement possible. Est-ce qu'il y a d'autres... je ne sais pas si c'est du contournement ou de la transgression. Moi, je mettrais ça dans l'idée d'une forme de contournement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que vous voudriez faire à nos intervenantes et intervenants?
Allô? Oui. Moi, j'ai une question pour Chantal Dekmin. Dans votre intervention, j'ai noté la rue, c'est terminé. Et alors, à un moment, vous avez dit ça. J'ai noté plein de choses qui me résonnent très fortement pour moi, mais je voulais vous demander de développer un petit peu. Vous avez dit à un moment, alors je ne sais pas exactement dans votre... Vous avez parlé du fait que la rue est terminée.
Ah, est terminée, oui, oui, oui.
Alors,
on est dans un urbanisme de règlement, pas dans la ville dont on a parlé, là, du désir, de la vie, etc. On est dans un urbanisme où ce qui décide, c'est le règlement, les zones, les chiffres, voilà. Et entre autres, L égale H, c'est-à-dire que la hauteur de la façade égale la largeur de la rue. Donc vous n'avez plus de rue. Vous avez, comme ce qu'on a, des voies rapides, des grands espaces, des mails, etc. Mais on n'a plus la possibilité de faire une ville constituée comme on l'a eu juste au milieu du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est terminé, et il y a une désagrégation à l'extérieur par zone, et puis c'est comme le lait caillé, si on caille un côté de la casserole, ça caille partout. Donc le centre devient aussi une zone, ça devient une zone désactivée par l'historisation du centre et le fait que c'est du tourisme. Et on n'est plus dans de la ville, en fait, dans l'usage. Et juste, je voudrais dire par rapport à tout ce qui a été dit de très beau là, à savoir que, en fait, la ville, l'essentiel de la ville, c'est sa poésie. Et tout ce qu'on va y faire vivre, tout ce qui part effectivement du désir et de la petite échelle, ce qui a été très bien dit. Je crois que si on veut reprendre de la ville, il faut réduire les échelles spatiales et allonger les échelles de temps pour avoir le temps que la vie se déploie. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et je pense que les artistes se posent la question de la place qu'ils peuvent avoir et du détournement, du contournement, de la transgression. Je pense qu'ils devraient tout simplement être à une place où ils sont décideurs de la ville. Je crois que c'est la seule façon par laquelle nous pourrons retrouver de la ville, c'est qu'on ne la donne pas aux urbanistes et aux techniciens, mais que le savoir des personnes qui savent faire de la ville avec ce qui a été dit, des gestes et des usages, etc., participe mais de façon décisionnelle à la construction de la ville. Avec des récits, entre autres.
Bonjour, moi je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qui se dit. Alors moi je guide des voyageurs en Méditerranée, donc je travaille essentiellement en Espagne et en Italie, et j'observe quelque chose dans l'espace urbain, vous m'entendez tous ? Oui. Dans l'espace urbain, ce que vous dites, c'est, moi je l'observe partout. Il y a une notion qu'il faut absolument voir et quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que sous couvert de nous dire que les villes deviennent des villes d'art et d'histoire, vous savez, c'est comme les boucheries, là. Vous voyez les tampons qu'on met sur les viandes pour vous dire si on a un label rouge, un label vert, vous voyez ça là. Ça arrive, c'est terrible dans les villes, on devient des villes d'art et d'histoire, on classe nos patrimoines dans des listes UNESCO, et après, derrière, on nous impose une urbanité toute propre, toute minérale. Vous voyez, on enlève les trottoirs, on enlève les bancs publics, on met des éclairages qui sont terribles. Vous voyez la place Renaud Bernard, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient. Attention, il y a des droits de préemption sur tous les rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que c'est cœur de ville, comme l'a été Saint-Michel à Bordeaux, comme ce que devient Marseille. Méfiez-vous, en fait, derrière, c'est une machine, c'est monstrueux, quoi. Et ça se révèle partout, à Rome, à Barcelone, dans toutes les grandes capitales, dans tout ce qui devient des capitales d'Occitanie, etc. Et ça, c'est mortel. C'est mortel, en fait. Ces logiques urbaines, elles sont terribles. Donc méfiez-vous, sous couvert de nous dire qu'on fait de l'art, on fait du tourisme, on fait de l'économie, blablabla, derrière, on nous la met, mais terriblement profonde, en fait. Et c'est dur parce que les seuls moyens, en fait, d'expression et de lutte, ben c'est vous, c'est nous, faut occuper l'espace et c'est une lutte, c'est une vraie lutte parce que là on est en train de complètement dénaturer les espaces humains, populaires, hein, et on nous ment, voilà, tout simplement, et c'est terrible. Et ça c'est calculé depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans. Toulouse en a eu du retard, enfin, c'est complètement dingo, on est villa et d'histoire que depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a une mafia immobilière qui ne dit pas son nom, avait monnaie de croix. Le père, le fils, le Saint-Esprit, la dynastie, le père Baudis, le fils Baudis, là maintenant c'est Moudin, pompier, pompeux, on y va, on nous la met. Et en fait, derrière, c'est très très difficile de lutter contre ça. Là, bonne foi, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un carnaval dans la rue, on fait des fêtes de lutte, mais ils détruisent. Et ça, c'est dur, c'est très très dur. Donc je ne sais pas, à part occuper les espaces, je ne sais pas quoi faire. Mais en tout cas, prenez bien conscience de ça. Quand on vous dit ville d'art et d'histoire, quand derrière on vous fait des beaux programmes bien jolis, bien lisses, bien dessinés, là derrière il se cache quelque chose de pas bon, quoi.
Chantal, vous voulez réagir peut-être ? Oui, peut-être juste dire que c'est un des modes de destruction de la ville, c'est le marketing urbain, avec une concurrence entre les villes du monde et une mise à niveau. On a des modes dans lesquels on a des sols clairs pendant 10 ans, après on a autre chose, etc. Donc on a il faut dire que c'est destiné au tourisme, donc puisque c'est une activité qui est dévoratrice et des autres activités et d'elle-même d'ailleurs, parce que quand toutes les villes se ressembleront en Europe et leurs zones piétonnières, on n'aura plus besoin de quitter chez soi. Et en même temps, c'est une démarche complètement exclusive. D'abord, c'est une ville, on arrive à faire des villes sans rez-de-chaussée, ce qui est quand même quelque chose de formidable. Et c'est une démarche exclusive des pauvres, des SDF, de tous ceux qui ne sont pas conformes à l'image rutilante qu'on veut donner de la ville. Donc, effectivement, c'est une démarche de destruction des villes et de nos vies.
Anaïs également, Vaillant, souhaitait réagir à ce qui a été dit.
Oui, c'est aussi pour revenir sur ce que tu disais, Chantal, sur ces contresens, ces mots qui sont utilisés, et cette langue de bois, guerre propre, développement durable, capitalisme vert, etc. Et aujourd'hui, on en est à entendre que pour protéger la communauté, ben, il faut qu'on soit tout seul chez soi. La 5G pour tous. Donc c'est que des contresens en permanence qui nous empêchent de penser, je reviens sur le sens. Et pour la culture, en fait, c'est pareil, il n'y a pas que la ville, c'est-à-dire que les anthropologues aussi sont incités à patrimonialiser les cultures, mais quelles cultures? Les cultures populaires, les cultures traditionnelles, parce qu'elles sont en train de mourir. L'ethnologie elle-même est peut-être un symptôme de cette destruction des cultures. Donc on classe effectivement, et le patrimoine, c'est du tri. Au centre du patrimoine, c'est le tri. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Qu'est-ce qu'on doit sauvegarder? Qu'est-ce qu'on doit classer? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans des musées? Qu'est-ce qui est labellisé? Donc même la culture elle-même et les cultures populaires, elles aussi, sont dans une lutte pour exister en dehors de ça et finalement en dehors des institutions aussi. Parce que l'institution et le capitalisme récupèrent tout, même les formes de contestation et de lutte. Donc on est vraiment pris dans cette grosse machine où on essaye à chaque fois de faire un pas de côté et on se fait rattraper, même en étant alternatif, même en se retrouvant à participer à la gentrification des quartiers avec des friches culturelles. Enfin, donc on est vraiment pris dans ce truc. Donc, et je voulais juste rajouter que ce qui est important, en mon sens, ce sont les lieux. Comment on fabrique des lieux plus que des villes, finalement, parce que dans la ville, il peut y avoir des non-lieux. Une ville peut être un non-lieu. Le lieu, c'est Patrick Chamoiseau qui dit « Sans lieu, je ne suis qu'un ectoplasme, un zombie. » Comment la créolisation, enfin tout ce mouvement-là poétique, revendique le lieu, pas l'identité, pas qui on est, mais le lieu. Parce que sans lieu, et dans les luttes on le voit, comme les ZAD, comme même aussi des lieux culturels, comment on s'implante quelque part, comment on sait, on a un QG, un cœur, quelque chose qui nous permet de travailler, de vivre. Donc c'est le lieu, et ça il faut en créer plein. Et l'espace public... devient finalement le lieu du pouvoir, le lieu du marché. Donc voilà, il y a aussi les espaces privés finalement qu'il va falloir chercher, créer aussi et les ouvrir après. Et peut-être que certains espaces privés seront plus ouverts que l'espace public, on n'en sait rien. Donc les lieux. Et voilà, pour finir, je voulais dire aussi que je l'ai entendu, c'est un philosophe qui disait ça, mais finalement, on s'est rendu compte ces derniers temps qu'on était tous confinés sur Terre. Il y en a qui essayent de partir, hein, quand même, on a vu, ceux qui ont de l'argent, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, on est quand même tous confinés là, quoi. Donc, il y a Guilvic, un poète que j'aime beaucoup, qui dit « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici ». Donc, voilà.
Alors, est-ce qu'on a d'autres interventions ou questions dans la salle ?
Merci. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais excusez-moi, je le prends. Non, c'est savoir, pour resserrer un tout petit peu par rapport à l'actualité et à l'artistique aussi, qu'est-ce qu'un artiste comme Pierre qui est dans les rues depuis une trentaine d'années, si je ne m'abuse, toujours aussi admirablement d'ailleurs, a pu observer comme changement en quelques mots ou qu'est-ce que c'était qu'être artiste de rue il y a 30 ans et aujourd'hui vraiment dans sa pratique physique, j'allais dire, de la rue. Et selon vous tous, donc il y a deux questions, quelle sera la norme ou quelle sera, je sais que vous n'êtes pas voyant ni devin, mais notre avenir à nos pratiques par essence qui doivent se dérouler librement dans l'espace public, ou en tout cas comment, dans quelles conditions, comment pourra-t-on un jour retrouver une utilisation, désolé du mot, plus libre, moins contrainte, plus, plus créative aussi, ou créatrice, enfin en tout cas permettant peut-être plus de créativité de l'espace public. Voilà, c'est un peu large. Et voilà, c'est tout.
Alors, oui, par rapport à, cette, cette disponibilité de la rue, moi je dis la rue, à faire du spectacle depuis, oui, de nombreuses années, il y a des paradoxes. Effectivement, au fur et à mesure du temps, des gens en étaient moins nombreux et aussi il y avait on allait, c'est vrai qu'il y avait cette idée, cette grande liberté de déplacement qu'on avait à découvrir aussi. Au début, dans les années 80, peut-être je me trompe, hein, mais les années 80, il y avait le théâtre de rue, il revendiquait, ah oui, on va dans la rue, on fait des spectacles dans la rue, on revendique cet espace de public, de citoyen, on fait du spectacle là, et il y avait cette idée-là, puis après, ça débordait. Effectivement, après, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme un peu à la fois une privatisation de l'espace public, des terrasses, des choses que l'institution publique, des mairies, loue l'espace public pour le privé. Et tout d'un coup, tout devient... on a joué il y a 2-3 ans en Angleterre. Il y avait un tiers de la rue qui appartenait au centre commercial, un tiers de la rue qui appartenait à la région et un tiers qui appartenait à la mairie. Et donc c'est empêché. Il y a le bruit. Alors, c'est... oui, le bruit. Quand je faisais des visites guidées avec des dadas, plus ça avançait, plus c'était... Il fallait sélectionner les endroits pour pouvoir parler, s'exprimer. Donc il y a un envahissement sonore, un envahissement de l'espace, de la voiture, du privé. Oui, effectivement, tout ça. Après, maintenant, il y a ces contraintes dont on parle. Donc effectivement, il y a tout ça. Et en même temps, je dirais qu'aussi, il faut noter, moi je crois, qu'il faut noter qu'il faut penser... collaborer, enfin se mettre, voilà, j'ai lu, il y a des gens qui font des projets, qui sont des organisateurs, des gens qui ont des idées. J'entendais la collègue là, c'est quand même fabuleux tout ce que j'entends. Donc il faut s'appuyer là-dessus, il faut discuter, il faut se mettre, et ça avant, enfin je veux dire, ça peut évoluer favorablement, je trouve. Des exemples concrets, là, cet été, ben voilà, on était à Paris, dans le 20e arrondissement, on joue Nouvelle de Noun, puis c'est itinérant, puis moi je dis, à la fois on devait jouer sur une place, il n'y avait plus de place, c'était que des terrasses, parce qu'il fallait sauver le commerce, et à la fois, je dis, ouais, les barrières, tout ça, on dit, ne te tracasse pas, on va s'arranger. On s'arrange, les producteurs, ils sont arrangés. Voilà, on a joué à un autre moment à Paris avec de Rue de Cirque. Puis le directeur, il me dit, deuxième jour, on n'a pas l'autorisation préélectorale et on avait déjà joué deux fois. Donc on s'arrange. Enfin, c'est même pas s'arranger, c'est qu'on dit, on fait. Et puis on invente des... Donc ça, pour moi, c'est une évolution, on va dire. Il y a de l'imaginaire qui se crée, il y a de l'inventivité et il faut se causer. Se causer et inventer ensemble.
Moi, j'avais trois petites choses à dire par rapport à ce que j'ai entendu. La première, pour rebondir sur ce que disait la personne de la Fédération des Arts de la Rue sur les ERP de plein air, juste donner un exemple. En octobre, on accueille, en partenariat avec le FAB, Festival des Arts de Bordeaux, Bassinga, donc pour une ligne ouverte dans un quartier qui s'appelle la Benauge. Et en fait, on a obtenu justement de ne pas faire de RP de plein air. Donc on va accueillir probablement jusqu'à 5000 personnes pour le coup, sans passe, ni barriérage. Donc voilà, c'est pour aller dans ce sens-là que c'est possible aussi de trouver ces endroits qui ne sont même pas de la transgression, qui sont juste que c'est autorisé. Voilà. Ça, c'était une information importante. Et la deuxième chose, c'est concernant justement cet espace de transgression. Pour moi, c'est intéressant de voir...
parce que beaucoup des organisateurs de la rue sont des institutions. Donc elles sont prises entre demande d'autorisation, la question de l'occupation, ce qu'on appelle l'occupation du domaine public, est soumise à de nombreuses autorisations et réglementations qui font qu'on doit quand même déposer des dossiers, demander des autorisations, etc. Donc nous, juste pour dire où est-ce qu'on, comment on fait un peu, c'est que ce que j'observe, c'est qu'il y a une distinction entre le risque réel ou supposé et la question de la responsabilité. Donc la question de la responsabilité, elle engage, nous on est une association, le président, etc. Donc on discute de qu'est-ce qu'on risque en termes de responsabilité pénale, juridique, etc. Et on discute du bon sens. Est-ce qu'il y a un risque, en l'occurrence en ce moment sanitaire, à ce que les gens dansent sur la place Saint-Michel ? Voilà. Et donc c'est des discussions, c'est des aménagements. Et dans certains cas, on décide le bon sens et on dit il n'y a pas pour nous de risque sanitaire à cet endroit-là. Donc on prend un risque mesuré en termes de responsabilité. Voilà. Et, mais c'est des, voilà, on est sur des fils de discussion, de négociation. Voilà, c'était juste, et je tenais à faire cette distinction parce qu'on a tendance à, comme on est tellement soumis à des réglementations, à faire la confusion entre le risque finalement pénal et juridique parce qu'on est en responsabilité en tant qu'organisateur et le risque de ce dont on est en train de parler, à savoir la situation sanitaire. Et que du coup, nous, on essaye un petit peu de naviguer entre ces deux risques et la thématique de notre prochaine fabrique, parce qu'on travaille sur des thématiques pendant 2 ans, on a travaillé sur l'utopie, sur l'invisible, on travaille sur la question du risque, justement, pendant 2 ans, d'un point de vue humain, etc. Bon, ça, c'est une... Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ta question sur l'avenir, évidemment, je ne suis pas devin et loin de là... moi, j'aime pas trop le terme d'occupation de l'espace public. J'emploie très peu le mot espace public et très peu, encore moins le mot occupation. Même si ça nous arrive évidemment concrètement d'être installé à certains moments dans une rue, une place, de traverser l'espace public et de d'y apposer des choses encore une fois qui sont très éphémères, qui sont très voilà. Saint-Michel, il se passe beaucoup de choses. On est toutes petites graines, franchement. Et puis, on travaille dans un autre quartier qui s'appelle la Benauge, qui est un quartier... et quand on travaille dans un endroit, ça veut dire, pour revenir sur l'acteur d'occupation, qu'on est en relation avec des gens, des personnes, des habitants qui sont sur ce territoire-là, en fait, qui habitent là, qui travaillent là. On ne va pas occuper le quartier des Aubiers ou du Grand Parc alors qu'on n'y a rien à y faire. En tout cas, nous, ça veut dire, si on est à la Benoche, ça veut dire que ça fait 4 ans qu'on travaille avec le centre social, qu'on travaille avec la bibliothèque, qu'on a mené des projets participatifs, etc., qui font qu'on se sent un petit peu légitime d'organiser une journée à un moment donné au pied des immeubles ou d'aller faire ce travail avec Basinga sur une semaine de résidence et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a, en tout cas, une sorte d'avenir, c'est dans la relation, quoi, peut-être. Je ne sais pas si, plutôt que dans l'occupation, c'est-à-dire comment la légitimité, on la cherche, elle est toujours, on échoue autant qu'on essaye, hein, ça c'est sûr, on n'est jamais légitime forcément, et on est en lutte, et en même temps on est soumis, on est un peu les deux, parce qu'on essaye de faire des choses, donc forcément on est en partie soumis aux règles qu'on nous impose, et en même temps on est en résistance, alors la résistance elle peut s'affirmer, je ne ferai pas ça, si ceci, si cela, de manière, et très bien, et c'est certains ont cette place-là, et affirme, et il y a des voix pour affirmer une résistance, et puis il y a d'autres résistances qui sont peut-être plus secrètes, plus invisibles, qui sont, voilà, où est-ce que je suis juste dans l'endroit où je suis posée au moment où je le suis, et comment je tricote de manière sensible avec l'environnement qui est celui dans lequel je travaille.
Juste, je crois que ce serait bien de faire une rencontre professionnelle sur le vocabulaire. Parce que occupé, c'est une horreur, quoi. Comment traverser, s'infiltrer, être là, avec les gens qui vivent, qui passent. Ouais. Horreur, c'est un gros mot aussi, dit ma collègue. Elle a raison.
D'ailleurs, en parlant des mots des arts de la rue, moi, je trouve intéressant, en y réfléchissant, en préparant cette rencontre, qu'on soit passé de la diffusion à l'infusion et qu'aujourd'hui, certains parlent d'irruption. Qui souhaite poursuivre, intervenir, questionner ce ce qui a été dit. Peut-être que certains ont des idées, des solutions. Alors les solutions, c'est peut-être un bien grand mot, mais peut-être que vous-même, dans vos pratiques d'artistes, de programmatistes, programmateurs, de spectatrices, spectateurs, peut-être que vous avez aussi des contournements, des transgressions, des adaptations que vous avez mises en œuvre et que vous aimeriez partager avec nous là pour les quelques minutes qui nous restent. Non, personneuse. Vous voulez rajouter quelque chose sur ça ?
Peut-être une petite chose.
Qui va dans le sens de quel vocabulaire et aussi pour répondre un petit peu, on peut rebondir sur ce qu'il disait Anaïs sur la censure S-E-N-S et d'autres. Nous, on a commencé à travailler sur, avec le texte de Peter Handke, avec le morceau de Parler Village. Qui est, on dit un morceau de ce texte dans notre spectacle, qui peut être entendu comme une série d'injonctions ou de conseils très, très fortes, en tout cas, qui peut être adressé, qu'on peut vraiment prendre pour soi. Et puis, pardon, je parle un peu, mais en fait, l'idée de créer d'autres injonctions, pour moi, m'a beaucoup aidé à traverser ces derniers deux ans, de se dire que je n'ai pas qu'à entendre les injonctions venues d'ailleurs, je peux créer les miens. Et puis, ils peuvent être moteurs pour moi. Et de travailler sur pour ce nouveau projet qu'on mijote, on travaille aussi sur l'idée de créer des règles, en fait, de ne pas toujours être à dire non à d'autres, à des règles qui nous rend, qu'on nous annonce, mais de créer ses propres règles. Donc de créer des propres règles de jeu, de vie, des démarches qui sont ensuite évidemment à être transgressées par nous-mêmes qui l'avons créé. Mais c'est une façon pour moi de m'ancrer dans une démarche qui me nourrit et ne pas être toujours en réaction à quelque chose qui me détruit, en fait. Voilà, donc je suis beaucoup là-dedans. Et puis j'ai fait une recherche, il y a des collectifs, notamment en Angleterre, qui travaillent sur la création de règles aussi, des règles en dehors de toute institution, et puis qui les publient gratuitement, qui on peut télécharger, des règles pour agir dans l'espace public, des règles pour plein de choses. Et c'est assez intéressant, en fait, de se dire, en fait, on peut se vider la tête de tout ce qui nous atteint et se remplir la tête d'autres choses. Voilà.
Peut-être juste une chose, justement, peut-être par rapport à ça. Je pense qu'il est très, très important de défendre l'espace public parce que c'est l'espace qui est à tout le monde. L'espace privé, c'est l'espace qui est à quelqu'un. L'espace public, c'est l'espace qui est à tout le monde. L'espace public, c'est là où règne la loi de la République et les droits de l'homme. Alors que l'espace privé, c'est la coutume, quelquefois familiale, la tradition, etc., qui est très intéressant aussi, respectable, hein, mais ce n'est pas la même chose. Les intérêts publics et les intérêts privés sont différents. Et aujourd'hui, avec justement tout le mouvement de l'urbanisme moderne et tout ce qui fait zone, on a créé un troisième espace qui est l'espace institutionnel. Par exemple, les centres commerciaux, y compris ceux qui sont dans la ville, ce ne sont pas des espaces publics, comme les gares d'ailleurs, enfin plein d'endroits comme ça. Ce sont des espaces que moi j'appelle institutionnels, que Foucault appelait des hétérotopies. Mais le logement est devenu aussi un espace institutionnel. Et on a des zones de logement ou des centres commerciaux dans lesquels ce n'est ni la loi de la République, ni la tradition personnelle qui est en jeu, mais le règlement intérieur, la norme. C'est-à-dire là où la norme remplace la loi. Et il me semble que ces espaces-là sont vraiment des espaces extrêmement difficiles à intégrer, à métaboliser pour nous, pour les habitants de la ville. Voilà. Et puis aussi dire qu'on parle de la disparition de l'espace public, ce qui est vrai, mais il y a aussi une disparition du temps public. Et je crois que c'est ça que vous habitez avec l'art. Les éphémérides, Anaïs a parlé des carnavals, mais tout ce qui est, par exemple, on a une disparition du temps public avec la commercialisation du dimanche. On avait un rythme hebdomadaire où tout le monde se suspendait une fois par semaine. C'est en train de disparaître. Et on a des journées mondiales, pas seulement la fête des mères et la fête des pères, mais chaque jour de l'année, il y a la fête du lapin, du vélo, enfin, les journées de tout qui sont des journées commerciales. Et il me semble que vous occupez le temps public pour redonner du sens à un temps public.
Donc, merci à toutes et tous pour votre attention. Merci à nos intervenants, intervenantes pour la finesse de leurs éclairages. Je pense qu'on repart avec beaucoup de nourriture pour l'esprit et pour des idées de lutte. Merci à Arto et donc à très vite et très bon festival à vous.
Merci à tout le monde. En ce qui concerne Arto, on a sorti un petit communiqué qu'on vous a volontairement pas distribué pour ne pas orienter la discussion. Et enfin, voilà, en vous écoutant, on sait aussi qu'on a du travail de pédagogie au niveau des élus, des préfectures, etc. Et que c'est aussi à cet endroit-là. La suite du programme, ça sera vers ici, vers le guichet d'accueil. Vous pouvez vous y rendre et vous laisser guider. Merci encore de votre présence.